Radio Kapi. Oh,
Kapi. Babel Pongo Massimango pour le journal.
Bonjour, à la une, ces avancées des FRDC dans le cadre de l'offensive contre le groupe armé dans les territoires de Béni. Elles ont pris le contrôle de plusieurs bastions de l'ADF dans la partie dite au Triangle de la Mort. La Banque africaine de développement a de l'argent pour financer des projets en RDC, mais l'attente du pays, le plan national stratégique de développement et certaines réformes, c'est l'essentiel du message de l'administrateur de la BAD, Freddy Matungulu, qui a clôturé sa mission hier à Kinshasa. L'invité de ce journal est Kasere Kamainda, directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma. Il revient sur les tremblements de terre de la semaine dernière et fait aussi le point sur l'activité des volcans Nyiragongo et Nyamulagira. Plusieurs bastions de l'ADF dans les territoires de Beni au Nord Kivu sont passés sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo une semaine après le lancement des offensives. Nous faisons le point de la situation avec Marc Marofimbo.
Depuis le lancement des opérations militaires à la fin du mois dernier, certains bastions et positions avancées des combattants ADF en territoire de Beni sont passés sous contrôle de l'armée après de fortes offensives et pilonnages stratégiques. Il s'agit des positions des ADF dans les périphéries du parc national de Virunga, notamment Kadou, Vemba, Kididiwe, Malolu, des localités situées dans la partie dite Triangle de la Mort. Depuis le week-end dernier, par exemple, les offensives se poursuivent aux alentours des forêts de Mayangose vers la partie est de la ville de Beni, dont la commune de Rwenzori. Selon les porte-parole des opérations militaires de Sokola 1, il est si tôt de parler d'un bilan des opérations car les offensives se poursuivent. Makazukai précise que l'armée est déterminée à poursuivre ses objectifs jusqu'au bout, mais surtout à accomplir les vœux du chef de l'État qui, lors de son dernier passage à Beni, a lancé le vœu de voir la population de Beni passer les festivités de la fin de l'année dans la paix et la tranquillité. Rappelons que les objectifs assignés par l'armée pour ces offensives sont notamment de restaurer l'autorité de l'État dans cette région qui a subi une série de massacres 5 ans durant. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
En Ituri, un déplacement des habitants s'observe depuis hier dans la localité de Luemba, c'est à 55 km au sud de Mambasa Centre. C'est l'Organisation de défense des droits de l'homme, Convention pour le développement des peuples forestiers, CODEPEF. Ces familles se dirigent vers Biakato et sa périphérie. Elles fuient l'insécurité dans leur milieu suite aux attaques répétitives des Maïmaï. Des sources sécuritaires indiquent que des dispositions sont en train d'être prises pour sécuriser la population ainsi que ses biens. Marcel Kizabia Mungu nous décrit la situation.
Des dizaines de familles quittent la localité de Luemba, en chefferie de Babila Babombi, pour se diriger les unes à Biakato, à Lima et les autres vers Tetouri dans la forêt. Selon l'Organisation de défense des droits de l'homme, Convention pour le développement des peuples forestiers, CODEPEF, elles sont composées à majorité des femmes et des enfants. Son coordonnateur, Laura Kea, indique que tout est parti du message mercredi des membres du comité local de sécurité de Babila Babombi, demandant à la population d'accepter les retours humanitaires dont les équipes de la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Ce que rejette la population, cette dernière craint que la présence des humanitaires et les équipes de la riposte dans leur village les expose aux attaques de Maïmaï. D'après toujours la même source, cette situation est à la base du mouvement des populations. Des sources sécuritaires dans la région qui confirment des menaces d'attaques contre la localité de Luemba indiquent que des dispositions sont en train d'être prises pour renforcer l'effectif des forces de l'ordre dans cette entité. Bounia, Martial Kiza, Biamongu, Radio Okapi.
Fin hier jeudi en RDC, de la mission de consultation et d'information de l'administrateur de la Banque africaine de développement, BAD. Pendant 3 jours, Freddy Matungulu et les autorités congolaises ont passé au peine fin le portefeuille des projets de développement de la RDC qui devrait recevoir l'appui financier et technique de cette banque. D'après Freddy Matungulu, sa structure attend un document reprenant le plan national stratégique de développement pour permettre la réalisation de ses objectifs dont certains seront mis en œuvre assez rapidement. Des précisions sur ce que représente ce portefeuille avec vous, Jacques-Yves Moulima.
Il s'agit en effet d'un portefeuille de projets de la RDC dont le montant est estimé à près de 1,5 milliard de dollars américains. De ces projets socio-économiques dont la BAD est en proie à financer, explique Freddy Matungulu, figure notamment
le projet entrepreneuriat jeune dans l'agriculture qui bénéficie d'un appui financier de 56 millions de dollars américains, un projet prioritaire de sécurité aérienne pour 104 millions de dollars américains, à la réhabilitation de la route nationale entre Kinshasa et Kikwit pour 70 millions de dollars américains.
Là-bas, de renchérir Freddy Matungulu devrait faire assez, mais elle attend de la RDC des ambitieuses réformes. Lesquelles?
Les réformes notamment liées à l'environnement des affaires. Les réformes dans le secteur, notamment des finances publiques, tout ce qui aidera à renforcer la mobilisation de ressources. Comment est-ce que le système judiciaire peut fonctionner mieux pour qu'il soit un facteur de promotion plutôt que de contrainte?
On entend enfin qu'il existe également des grands projets d'envergure à portée continentale, à savoir Inga 3 et Route Rail Kinshasa-Brazzaville, dont les discussions et les études sont en cours entre les autorités congolaises et les différents partenaires, dont l'ABAD, pour leur mise en œuvre.
Projet de cimenterie de Maïko à Kisangani. Une firme chinoise s'engage à le financer. Il s'agit de l'entreprise Yangtze Genghua International Engineering. Elle est spécialisée dans la production du ciment et l'installation des usines dans le domaine de l'industrie. C'est le ministre de l'Industrie qui l'a annoncé hier après un entretien avec le responsable de cette firme dans son cabinet. D'après Julien Paloukou, les travaux de cette cimenterie reprendront dans peu de temps. C'est ce qu'il explique au micro de Jacques-Yves Moulima.
Il y a quelque temps, j'avais visité les installations de la Simaïko et ensemble, vous avez vu les difficultés qu'il y avait. J'ai eu une lettre de manifestation d'intérêt des Chinois qui se disaient intéressés par le secteur parce qu'ils sont dans plusieurs pays et beaucoup de firmes internationales à travers le monde. Et je les ai invités pour que nous puissions échanger avec eux parce qu'ils ont une capacité de devoir prendre en charge la cimenterie de Maïko à Kisangani qui va desservir près de 20 millions de personnes en province de la Tchop, du Bas-Ouélé, en province du Haut-Ouélé, en province de l'Ituri, en province du Nord Kivu. Et toute cette partie-là qui ne fait qu'importer du ciment à longueur de journée va désormais avoir une unité locale où nous transformons nos ressources propres avec la main-d'œuvre locale, avec une possibilité pour cette cimenterie d'ouvrir une école de formation des ingénieurs sur place qui vont aider à des projets futurs dans la région.
Dans le secteur de l'éducation, sachez que la gratuité de l'enseignement de base prônée par le chef de l'État souffre d'application dans certaines écoles, même publiques au sud Kivu. Certains chefs d'établissement scolaire exigent aux parents de revenir à la prise en charge des enseignants, dont la plupart sont de nouvelles unités, démarche à laquelle s'oppose totalement le comité des parents des écoles catholiques. Alain Kikunda nous décrit la situation sur place.
Le mouvement des grèves sont devenus intermittents dans les écoles publiques du Sud Kivu depuis leur rentrée scolaire. Même certains enseignants qui touchent les salaires de l'État majoré disent se solidariser avec leurs collègues nouvelle unité et ses non payés. Conséquence, difficile de proclamer les résultats de la première période des cours. Ainsi, certains chefs d'établissement tentent de recourir à l'ancien système de la prime pour résoudre les problèmes des enseignants nouvelle unité. Les comités de parents ne veut pas l'entendre de cette oreille. Jean-Paul Moulemaza, président.
Pour ces chefs d'établissement qui essayent d'organiser des assemblées générales pour prendre en charge les enseignants, nous ne soutenons pas ça parce que l'unique employeur de l'enseignant aujourd'hui, c'est l'État congolais.
Pour les directeurs de la province éducationnelle Sud Kivu 1, la situation de certains enseignants a été résolue et les démarches sont en cours pour les restes. Yoï Bokete.
Pour ces petites choses-là que vous venez de constater, à travers quelques écoles. Il n'y a pas grand-chose parce que les enseignants du Sud Kivu, ils connaissent leur rôle au niveau des écoles. Ils savent qu'ils doivent dispenser les cours.
Bukavu, Alain Kikunda, Radio Okapi.
Le gouverneur de la province du Olomami est visé par une motion de défiance initiée par un collectif de députés provinciaux. Il lui est reproché entre autres la mauvaise gestion de la province et le non-respect de l'Assemblée provinciale. Jusqu'à présent, son gouvernement n'est pas encore investi. L'auteur de la motion, le député Samuel Yumba, explique la démarche du collectif et le joint au téléphone par Jean Gandou.
Depuis le 16 octobre qu'il avait constitué son gouvernement, jusqu'aujourd'hui le gouvernement n'est pas encore présenté à l'Assemblée pour accepter son programme. Curieusement, nous trouvons ces ministres qui ne sont pas encore investis, qui sont dans des missions légales avec les ordres des missions. Ils viennent engager la province au niveau national. Ils participent à des conférences de ministres, par exemple son ministre de la Santé qui a été à Zongo à l'atelier des ministres provinciaux. Le même ministre a été à Kinshasa. cas, il y a aussi d'autres griefs. Pour la prise de décision, le gouverneur se livre à beaucoup de situations. Il engage la province, il autorise les investissements pendant qu'il n'a pas encore présenté son programme à l'Assemblée.
Honorable, mais que diriez-vous de ceux qui pensent que vous êtes fâché parce que certains d'entre vous ne se retrouvent pas dans l'équipe gouvernementale qu'il a constituée?
C'est faux, on ne partage pas cet avis. Nous sommes les députés, nous sommes obligés de respecter les textes. S'agissant de la nomination, ça relève de la compétence du gouverneur. Si il a nommé, ça ne peut pas décourager les honorables députés.
Le président de l'Assemblée provinciale du Oulu-Mami confirme l'information et précise que le gouverneur Marcel Lengue est déjà notifié. Des sources proches du gouverneur de province incriminé nous apprenons qu'il est attendu aujourd'hui même à l'Assemblée provinciale afin de présenter ses moyens de défense. À Kalemie, province du Tanganyika, les forces de sécurité procèdent depuis quelques jours à une vaste opération de traque des vendeurs de chanvre. Mercredi, une cinquantaine de personnes auraient été arrêtées et conduites à la prison centrale. Expédie Mambamoubi nous en parle depuis Kalemie.
Parmi ces trafiquants, plusieurs femmes. La traque effectuée par des militaires a ciblé plusieurs points chauds de la ville. Air Tanganyika, Quatre Coins, Marché Katanga Kivu, Kamko, Mateo, Jumbo, Kabalo, Regeza notamment. Rien que pour la journée du 6 novembre, rapporte une source, les forces de sécurité auraient mis la main sur une cinquantaine de trafiquants de chanvre. Cette opération a également permis de démanteler un réseau dirigé par un certain Ponda Bangui, domicilié sur l'avenue Tanganyika. Un membre de la cellule de communication de l'armée justifie l'implication des militaires dans cette traque par le fait que les camps militaires étaient devenus un grand débouché pour ces trafiquants de chanvre. Kalemi, Expédie Mwambamoubi, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le président burkinabé Christian Kabore a présidé hier une réunion de crise. Il s'est adressé à la nation après l'attaque du convoi de la société minière canadienne Semafo qui a fait au moins 38 morts et des dizaines de blessés. Il appelle à une mobilisation générale de fils et filles du pays. La Libye veut relancer son économie malgré la guerre et les divisions politiques qu'elle connaît. Le port pétrolier de Ras Lanouf à l'est de la capitale Tripoli a repris ses activités donnant une impulsion à une économie ravagée. Le pays dépend presque entièrement des revenus pétroliers et la nation National Oil Corporation a eu du mal à maintenir la production du pétrole brut à un niveau stable.
L'invité.
Il s'agit de Kassere Kamaïnda, directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma. Il nous parle du tremblement de terre qui a été ressenti le 30 octobre dernier à Bukavu et Goma, ainsi que de l'impact de l'activité des volcans Niragongo et Nyamulagira. Ils sont traités avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Kassere Kamaïnda, bonjour.
Bonjour.
Les tremblements étaient de quelle magnitude?
Nous avons enregistré d'abord au niveau de l'observatoire ce tremblement de terre et nous l'avions rapidement localisé dans la zone de Walungu. Et sa magnitude était de 5,3 sur l'échelle de Richter.
Et c'est très grave.
Oui, c'est très grave. Ça nous appelons des tremblements de terre régional. Quand c'est inférieur à 5, nous parlons des tremblements de terre locaux. Quand c'est régional, c'est-à-dire ça peut être ressenti par presque dans les pays voisins.
Oui, effectivement, les tremblements ont été ressentis à Bukavu, même dans certains quartiers de Goma.
Oui, ça a été ressenti à Goma, vers Katoï. Moi-même, je ne l'ai pas ressenti, mais j'ai été informé par la population, puisqu'on m'a appelé. Mais c'était ressenti aussi au Rwanda et au Burundi.
Et quel risque pour la ville de Goma, qui est au pied du volcan?
Écoute, le tremblement de terre, c'est quelque chose qui vient de la profondeur de la terre. Et le volcan aussi vient de la profondeur de la terre. Donc, quand vous bougez à Goma, le volcan aussi bouge. C'est pourquoi, et nous voulons remercier la MONUSCO pour ça, le lendemain directement nous a accordé l'hélicoptère pour qu'on puisse survoler tous les flancs du volcan Niragongo Nyamulagira. On a même atterri au niveau de Nyamulagira et nous avons fait des heures là-bas et notre équipe est montée à pied jusqu'au volcan Niragongo pour 3 jours. Le résultat que nous avons, il n'y a pas de risque. Mais le 3 février 2008, quand il y avait un tremblement de terre à Bukavu, ça avait un impact sur les fissures qui logent les flancs du volcan Niragongo. Ça a cessé de dilater de 2 cm. Et là, ça peut permettre à ce que le magma sorte rapidement de la surface. Alors, pour le moment, nos analyses et les données que nous avons, il n'y a pas d'inquiétude. Même au niveau des températures, puisque si les fissures s'ouvrent, il y a le magma qui monte en surface, et on enregistre une augmentation des températures. Toutes les données n'ont pas montré une anomalie quelconque.
Et quelle est l'activité actuelle au sein du volcan Niragongo?
Le Niragongo est toujours en activité. Il est Nyamulagira, mais l'activité est normale. Nous gardons toujours notre couleur jaune pour dire restons vigilants.
Dans le rapport sur la surveillance du volcan qui date de 1976, on voit qu'il y a eu un tremblement de terre qui avait encore comme épicentre Walungu et le 10 janvier 1977, il y a eu éruption. Aujourd'hui encore, il y a ces grands tremblements de terre à Walungu. Quel message vous pouvez nous donner?
À l'époque, en 1976, le niveau du lac de lave de Nyiragongo était à 200 mètres. Du sommet et au-dessus de la fissure principale. Il est vrai qu'à le tremblement de terre a eu lieu, ça a accéléré l'éruption du Nyiragongo. Mais aujourd'hui, le lac de lave est à peu près à 400 mètres du sommet. Et quand le tremblement de terre a eu lieu, il n'a pas eu de changement. Donc, ça n'a pas présenté d'inquiétude comme en 1976. Cette fois-ci, nous avons des observations. À l'époque, en 1976, on était distrait, il n'y avait pas d'appareil pour surveiller. Et mais aujourd'hui, il n'y a pas à s'inquiéter, parce que le 3 février 2008, quand le tremblement de terre a eu lieu à Bukavu, nous sommes montés au volcan le 11, et il y a eu des répliques qui sont arrivées. On a vu comment l'activité variait dans les cratères. Pour le moment, ça n'a pas affecté l'activité du lac de lave.
Donc on peut dire l'OVG est suffisamment équipé pour surveiller correctement les volcans.
Au point de vue équipement, nous pouvons vous dire vrai. L'OVG, c'est le seul observatoire, le seul centre qui a des données en temps réel. Temps réel, c'est-à-dire toutes les 4 minutes, nous avons les informations sur le volcan. Et on a aussi les informations en direct sur les gaz qui sortent du volcan. La surveillance est bonne, mais aussi il faut accompagner ça par des gestes.
Notamment la prise en charge du personnel.
La prise en charge du personnel, vous l'avez bien dit. Il est difficile de maintenir quelqu'un dont le salaire est dérisoire toute une semaine, parce que le salaire que nous avons, une semaine c'est terminé, d'ailleurs on entre dans la dette, c'est tout un problème. Il y a des gens qui passent la nuit là-bas, hein. Nous avons le tour de rôle de passer la nuit.
Monsieur Kasiaka Mainda, merci.
Merci, Dame Rosalie.
Et c'est la fin de ce journal supervisé par Pele Kipela, Élisée Tchikota Tivuta, mise en onde par Alain Goy. Merci de votre attention, excellent après-midi.